chez Trésor, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Attention, 1, 2, 3,
Cheese!
Drama. I wrote you twice last night, wish that I could rewind, take back whatever I said, but I can't do that. Thought it was going so well, now I don't even know. Said you did this and that, best that I lay low. I wrote you twice last night, wish that I could rewind, take back whatever I said, but I can't do that. Thought it was going so well, now I don't even know. Said you did this and that, best that I lay low. I don't mean to cause any drama. It's just somehow it always gets me. Everybody says I'm so reasonable, but when I'm down the road, it's sensational. I wrote you twice last night, wish that I could rewind, take back whatever I said, but I can't do that. Thought it was going so well, now I don't even know. Said you did this and that, best that I lay low. I didn't mean to cause a scene when I told you you should leave. Running your friends so embarrassing, I did my best, I swear.
Vous écoutez Conduite Antisportive sur les ondes de Schiste 94.3. 16 novembre est la date. Jonathan Paradis.
Bonsoir.
Mon beau petit radis, toi.
Ben oui,
comment
ça va?
T'es l'acolyte aujourd'hui.
Seul et unique
acolyte.
Oh que si.
Comment ça va, Joe?
Moi, ça va bien.
Plus que moi, hein?
Plus que toi, plus que le Canadien aussi,
ouais.
Avec la même chanson qui se répète. mais non, ça va super bien, merci. Toi, on sent la fatigue un petit peu.
Écoute, j'ai l'impression d'avoir 108 ans. On jouait au ballon rond hier, hein, au soccer, et à une heure tardive, disons-le.
Bon, donc, plus jeune.
Mon corps en prend pour son rhume. Belle drôle d'image. Hein? Mais en plus que je me suis foulé la cheville la semaine dernière, donc j'ai une petite entorse qui ne guérit pas parce que je continue à jouer comme un épée. Voilà! C'est ce qui fait le tour de mes activités physiques.
Les fameuses excuses de sportifs.
Ouais, hein. On se plaint tout le temps, nous, les footballeurs.
Surtout au football, oui. Hein.
C'est ça.
C'est bien reconnu.
On endurcit le stéréotype. Yes. Toi, Joe, est-ce que t'as écouté du sport ces temps-ci? Qu'est-ce que t'as fait, Colin?
Ben, il y en a beaucoup, oui. Il y a beaucoup aussi de faits inusités aujourd'hui qu'on va pouvoir parler. Toujours en lien avec le sport, bien évidemment. Mais
yes.
Oui, autant football européen, là, on dit bien.
On a une grosse émission. On a un gros programme.
Ouais, un gros bloc là-dessus. Du hockey, bien évidemment. Un petit soupçon de baseball pour bien nous représenter ici à Conduite Sportive. Anti-sportive.
Oh, ça peut être sportif aujourd'hui. On est juste Conduite Sportive.
Ouais, c'est ça.
Imagine,
le nom.
Oh, on change de nom à chaque semaine, dorénavant.
Parfait, ça sera le nom cette semaine.
Yes, Conduite Sportive.
Donc, on va aborder ça avec la Coupe du Monde qui se poursuit ce soir.
Les qualifications en vue de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Le Canada qui tente de se frayer un chemin.
Avec une tactique... Un peu vue déloyale, on va en parler un peu plus tard, là,
ouais,
avec
ouais.
La température qui va
ouais.
beaucoup jouer.
Ça se passe ce soir, puis on s'en reparle.
Yes.
Ouais. Puis sinon, on va parler de hockey, évidemment. On va parler un petit peu de tennis aussi, brièvement, des nouvelles un peu improbables. Sinon, on avait parlé de quoi aussi? On
des
a parlé de baseball.
Aussi,
baseball, il y a quelques signatures, là, c'est l'entre-saison. On a des nominations. On a parlé un petit peu la semaine dernière des trophées, des gants d'or, des bâtons d'argent aussi un petit peu, des candidats au MVP. Là, ça a été nommé la semaine dernière. Mais là, il y a quelques... les recrues de l'année, d'ailleurs, qui ont été nommées, affichées. libéré. On va parler de ça un petit peu, puis on va parler aussi des signatures, évidemment, parce que crime, pof, qu'on aime ça le baseball ici à Conduite Sportive cette semaine.
Même quand il n'y en a pas.
Même quand il n'y en a pas, on trouve le moyen d'en parler. Sur ce, Jonathan, avant qu'on commence notre émission en bonne et due forme, on va écouter Wild Pink, découverte que j'ai faite tout à l'heure, et la pièce Playing Through a Dip Related Injury. Donc, on joue quand même avec une blessure sur les ondes de Chiz 94.3.
Allons-y. Your baby was a rolling stone. It came to a rest, gathering the moss, covered in soot, bouncing across another bridge you burned. I'm glad that you're happy now in Connecticut. We talked the other night, and I could tell you had enough of it. What I really said. Is that I love you for the way you leaned into the changes in your life. Yeah, you are
for the way you leaned in to the changes in your life.
C'était Wild Pink et la pièce Playing Through a Deep Related Injury sur les ondes de Schiste 94.3. Vous écoutez Conduite Sportive, rebaptisée aujourd'hui pour l'occasion. Jonathan, on a fait notre espèce de tour de table. On a mis nos éléments en place lors de l'introduction et on a décidé, comme si on lançait une pièce, pile ou face, on a décidé que ça allait être le hockey. On ne sait pas de quoi on va parler pour le reste, mais on va parler de hockey.
D'hockey, certain.
Non, c'est pas vrai.
Plus tard.
Yes, ben oui, on a plein d'affaires.
On garde dans mon bon.
Mais on commence avec le hockey parce qu'on se garde le soccer pour la fin cette fois-ci, entre autres. Voilà.
Ok, si.
Yes. Ok, si.
Au niveau du Canadien, j'aimerais bien commencer avec ça.
Restons près de chez nous pour commencer, pour débuter.
Puis moi, c'est une équipe que j'admire beaucoup, là. Ça, je sais pas pour toi. Es-tu un fan du Canadien, Gabriel?
Depuis le temps qu'on se connaît. Par rapport au sport, du moins. Mais non, on dirait que je suis toujours un peu mi-chaud, mi-froid. J'ai été vraiment déçu par cette équipe-là, par le passé, depuis que je suis petit. C'est difficile de rester un fan assidu, je trouve. Surtout qu'il y a tellement de belles équipes dans la Ligue puis de joueurs électrisants. Je suis plus un fan de certains joueurs que un mordu et fanatique d'une équipe en question.
Puis en ce moment,
c'est difficile d'être fan du Canadien, surtout que nos petits moments de réjouissance sont souvent, détruits par la suite par des moments très, très sombres, comme les deux dernières défaites.
La ritournelle continue. Ouais. comme je disais, on dirait qu'à chaque entrée d'émission, on part là-dessus.
Ouais.
Mais malheureusement, c'est récurrent. Ouais. Et là, ça tourne beaucoup autour de la situation des gardiens en ce moment. Price qui est blessé au genou. Là, on a appris après l'émission de la semaine dernière qu'il aurait...
Ouais.
Qui est en combat avec des substances et tout. Donc, ouais. Il va aller en centre de thérapie, en fait. Donc, pour corriger le tout. Donc, Price qui n'a toujours pas joué un seul match à date pour le Canadien, ce qui est une raison, une des premières excuses, vu que dernièrement, on aime bien excuser le Canadien.
Bon point là-dessus, parce que même en santé, on s'entend, là, comment dire, Price ne marquera jamais de but. Et ben, l'attaque est anémique en ce moment. Là. Il y a rien qui se passe, à part peut-être Suzuki, qui est un des seuls vecteurs d'offensive.
Aucunement, le premier trio est effacé complètement, le deuxième également. La plus grosse contribution est au troisième, où c'est trois joueurs de Ligue américaine pratiquement. Donc,
pareil, au match samedi contre les Red Wings, le premier but, c'est Michael Pezzetta qui fait une passe à Ryan Poehling qui se tire d'un angle assez difficile. Peut-être un mauvais but accordé par Alex Nedeljkovic, mais tu sais, c'est le trio qui a donné une étincelle. C'est ce trio-là de joueurs... plombier qui a donné une étincelle aux Canadiens alors qu'on n'en a pas vraiment profité.
Ah non, en fin de semaine, il n'y a eu aucune contribution des deux premiers trios.
Ouais. Puis l'élément déclencheur, le dénouement, je pense, dans ce match-là, c'est la collision de Dylan Larkin sur Jake Allen, propulsé de façon très idiote par Jeff Petrie, alors que Larkin, ça venait à toute vitesse. T'sais. On s'entend, ce gars-là est une fusée sur patin. Là.
C'est vrai que je pose des doutes là, sur le fait si le geste était volontaire ou Petrie qui a comme interféré.
Ben non, on le voit clairement à la reprise que Petrie le rentrait dedans vers Jake Allen. C'est vraiment triste parce
très
que
dommage,
parce
très
que Allen, on s'entend là, ce match-là, si Allen reste devant le filet, je pense que le Canadien a une très bonne chance de gagner le match. Montembeau, un, était très froid et ben c'est probablement le gars le moins en confiance aux quatre coins de la terre en ce moment. Il y a vraiment de la difficulté, Samuel Montembeau, puis c'est pas vraiment contre lui, c'est un gardien de Ligue américaine, on s'entend. Au mieux, là, un excellent gardien de Ligue américaine, mais il y a pas les réflexes nécessaires, il est chambranlant. Il n'y a pas non plus la technique. Il est très, très, on dirait, rond et mou dans son filet. Il prend pas beaucoup de place, alors qu'il est quand même un gars imposant. Ça a paru, il a donné deux buts discutables. On peut pas mettre le blâme de la défaite sur ses épaules. Par contre, ça aide pas. Puis, ben, Jeff Petrie est comme un peu... l'agresseur là-dedans. Là. et aussi, justement, l'acteur principal de cette défaite-là, à mon humble avis.
Ouais, ça l'a coûté le match, bien évidemment. C'est sûr que c'est dommage quand on regarde la façon dont tout ça s'est produit.
Ouais.
Mais bon, là, on jongle beaucoup avec les gardiens en ce moment. Kayden Primeau qui a été rappelé pour ce soir aussi.
On parlera pas du match contre Boston parce que c'était lamentable. En tout cas, mais ça,
plus en fin de match,
ouais.
Mais le Canadien qui n'est pas réputé pour bien jouer, surtout en deuxième période. On a des statistiques atroces en deuxième période. Pas capable de garder une avance. Ça, c'est.
C'est difficile.
C'est pas facile.
C'est difficile.
Pour le départ de Caden Primo, ce soir, contre les Rangers au Madison Square Garden, ce sera pas facile. C'est un gros défi qu'on lui donne.
Écoute, les Rangers, c'est une équipe en deux temps. On dirait qu'on ne sait jamais quoi s'attendre des Rangers. Je trouve que c'est une excellente attaque, on s'entend. Là. Par contre, devant le filet, on s'entend qu'avec Gorgiev et Shesterkin, il n'y a comme pas vraiment de constance. Je pense que Gorgiev joue beaucoup moins de matchs ces temps-ci. Alexis Lafrenière est en panne sèche.
On vient toujours d'apprendre aussi Samuel Blais.
Samuel Blais qui s'est déchiré un ligament croisé intérieur dans le genou et out pour 6 à 8 mois. Là,
toute la saison.
Oui, c'est ça. C'est très dommage pour Samy Blais parce qu'il avait un bon début de saison en plus.
Mais en général, le portrait de l'équipe des New York des Rangers de New York, c'est quand même un bon parallèle qu'on voit qu'avec la lettre qu'ils ont envoyée 3-4 ans environ à leurs partisans en disant on va recommencer tout à zéro,
ouais.
On vous avertit, soyez prêts. Là, je trouve que ça commence de plus en plus à porter ses fruits.
Ouais.
C'est peut-être un des modèles que le Canadien devrait ou aurait dû ou pourrait toujours prendre exemple sur.
Prendre exemple sur, ouais, ben oui. Ben c'est clair, je pense qu'en plus, c'est un gros marché de hockey quand même, New York, là. C'est un gros marché de sport en général. Mais...
Ah, mais quand ça marche pas, ça marche pas, puis il faut juste brasser les cartes. Eux, ils ont changé le paquet au complet.
Ouais.
Les Canadiens, en ce moment, on essaye justement de brasser les cartes, ça marche pas tellement. C'est sûr que là, on est dans une division plus compétitive.
Ouais.
C'est pas facile, mais...
Écoute, j'en parle à chaque émission. Je pense, lorsqu'on parle de hockey, du moins, que ça prend une reconstruction totale de A à Z. Pas repêcher 14e, 15e, 16e
non,
rang.
Si tu fais la même chose 3-4 fois, mais à
ben
moitié,
non, ben non, ben non,
ça
ben
porte
ça,
pas
ça,
ses fruits.
C'est sûr que ça marchera pas. Puis les Rangers, justement, eux, ont eu un gros reset, comme on dit, hein, dans la langue de Shakespeare. Mais donc oui, puis là, ça porte fruit, entre autres. Mais... Reste que, oui, cette équipe-là a gagné ses trois derniers matchs. Je trouve que c'est pas une puissance non plus. C'est un match prenable pour le Canadien.
C'est possible. Moi, côté prédiction, je la donne malheureusement aux Rangers de New York. Caden Primo, là, ça fait quatre matchs déjà qu'il fait avec le Canadien. Une victoire dans ces quatre matchs-là. Donc, ça va être à voir. Il performe quand même bien avec le Rocket. Quatre victoires aussi, 2,41 de buts alloués et 916 de taux d'efficacité. C'est pas désastreux.
Ouais.
Donc, comme tu dis, le match est prenable, mais il va falloir travailler fort.
C'est sûr. Écoute, je pense que Primo mérite sa chance. Puis là, c'est une occasion... comment dire? C'est certain que c'est pas l'idéal pour lui d'entrer dans ces circonstances-là. Par contre, il a une chance de se faire valoir. Puis espérons qu'il la saisisse.
Ouais, puis ça fait monter un peu tout le monde dans l'échelon. En bas de lui, on a Kevin Poulin aussi de Trois-Rivières qui est rappelé par le Rocket de Laval. Donc, ça va lui donner aussi une chance de faire ses preuves. Il fait très bien, je crois, en ce moment avec les Lions. Les Lions de Trois-Rivières. Donc, des bonnes moyennes. Là, il va monter dans la Ligue américaine.
Yes. Augmentation, comment dire, une mise à jour, une mise à point, un bonus, quoi, pour Kevin Poulin. reste à voir. D'ailleurs, c'est une belle sortie si vous voulez prendre la 40 puis aller vers Trois-Rivières. Aller voir les matchs de la East Coast League. C'est quand même du bon Christy de hockey, là. En tout cas,
ouais,
on va
bon faire
ça. À l'amphithéâtre Cogeco.
Très bon niveau.
Yes.
Puis pour... mettre la cerise sur le sonnet un peu sur toutes les déboires du Canadien. Il y a Mike Hoffman aujourd'hui, donc qui est blessé aussi au haut du corps. Donc, Mike Hoffman, quand on considère que c'est un des meilleurs marqueurs, avec un grand total de 4 buts.
4 buts en 15 games.
Ouais, en 17 parties. Ouais.
17, ouais, c'est ça.
Donc,
il y en a-tu joué 17, lui? Je pense pas qu'il y en a joué 17. Il y en a manqué un petit peu au début de la...
C'est vrai. Mais considérant le portrait général, c'est un très gros morceau qu'on perd tout de même ce soir.
Ouais.
Et tu sais, on regarde les d'autres équipes dans la Ligue, avec exemple les Penguins de Pittsburgh qui ont commencé la saison sur un pas trop bon pied, mais considérant qu'il y avait... pas Sidney Crosby et tous leurs meilleurs joueurs non
Malkin
plus.
Malkin
non plus. Ils s'en sont bien sortis. Je veux dire, ils ont réussi à sortir la tête un peu de l'eau, contrairement au Canadien de Montréal en ce moment qui est pas capable de rivaliser avec leur, les autres équipes.
Effectivement. D'ailleurs, ailleurs dans la Ligue nationale.
En parlant
d'ailleurs, ailleurs, Colin Bean, à Ottawa, grosse éclosion de
coach.
Toute l'équipe. Les trois matchs, en fait, cette semaine des sénateurs sont reportés. Donc, si vous avez des pools, des fantasy ou simplement une affection particulière envers les Sens, vous allez rentrer bredouille chez vous parce qu'il n'y a pas de game, Colin!
Non, faudra prendre son mal en patience pour les sénateurs d'Ottawa.
Grosse histoire. Quand même, là, on s'en sortira pas.
Ça passe, c'est vraiment avec un contrat signé, je crois, avec la Ligue.
Ouais.
Et tout le dernier joueur qui est entré dans le protocole de la COVID-19, ça a été la goutte de trop. Et là...
ouais, c'est ça.
Et c'est ce qui...
Le micro d'en face. La goutte de trop et le micro d'en face. Mais oui, en plus, c'est le deuxième club canadien qui est affecté. L'an passé, les Canucks de Vancouver avaient manqué comme presque trois semaines. Deux, trois semaines.
Et les sénateurs qui ne font pas très bien non plus sur la glace.
Sur la glace lorsqu'ils jouent, ouais. Exact, non.
Donc, on va peut-être pouvoir repenser un peu notre façon de faire.
C'est le temps de faire de la vidéo, puis des cousins comme ça.
C'est le bon temps.
Les tableaux. Yes, hey, Jonathan, on finit le bloc hockey sur la pièce White Rice, un rappeur anglophone, et la pièce yoga, crime, parce qu'on va relaxer, puis probablement que les joueurs des sénateurs vont pouvoir faire un peu de yoga.
C'est pas le temps qui leur manque.
Dans leur maison respective. Vous écoutez Conduite sportive cette semaine sur les ondes de Schiste 94.3.
I've got too many turtles giving a nigga neck, giving a nigga neck, giving a nigga neck, ayy, giving a nigga squirtle. I could skirt, y'all. If I had a permit, but all I can do is cool down with my folks uptown. We'll hose that downtown, cause scramble my system surround. Froggy leaps with every drug I take. Ice steaks, my steak, raw meat, blue cheese, I mean. And amphetamines, as are amphibians. Delicate sound is not for the children, well, not your children. I'm like Kermit in traffic, skipping classes. Fuck school, can't afford. Every young got holes in my escalator. Say I'm defying defiance. Escalates like double, triple. I lost my mind. Time got me crippled. Dipped in vinegar to get this treat so. Finesse my stilo, Pilates my flow. Stretch a coke like yoga. Stretch a coke like yoga. Stretch a coke like yoga. Stretch a coke, stretch a coke. I'm ferocious, pheromones in my potion. To fuck fast when I'm hosting. Niggas like sucking dicks while their bitches silent. Airplane mode, the alarm's still on. I can't fuck up the cadence. I can't dance with no life jacket on. I'm never buckled up unless I'm passing. Stranger in the passenger. Nigga, the reaper can't find her. Without facing the dangerous alliance. Lost my religion with young Buddha. Mentoring that bad with the dad's gold glasses. Hold up, mama. Hey, Colo's bed. Mama, like him. Oh. Sorted fabric like my aunt, holy fabric, hey. I guess that's why Uncle Tom dressed so fabulous. Uncle Tom is so fabulous, hey. Uncle Tom dressed so fabulous, hey. Uncle Tom dressed so fabulous. That is the flow. Should you cook like you rap? Should you cook like you rap? Hey.
If I knew it, would I get it?
Should I cope like a rock?
If I knew it, would I get it?
I'm heading to Wyoming, wondering why I'm roaming, running from suicide. Swiss cheese when the door's open to the side. The whip's clinically dead, but it's still killing shit. It's killing shit. The whip clinically dead, but it's still killing shit. It's
C'était White Rice et la pièce Yoga sur les ondes de Schiz 94.3. Vous écoutez toujours Conduite Sportive, rebaptisée, renommée pour l'occasion. Jonathan, rentrons dans notre sanctuaire sportif.
Tu parles de prédilection.
Prédilection, prédilection, comme tu dis. Voilà. On va parler de baseball alors qu'on est en entre-saison, comme on l'a mentionné pendant l'introduction. Écoute, on ne cessera jamais de parler de baseball, évidemment. Donc là, il y a quelques signatures intéressantes, des signatures majeures déjà, alors que c'est l'ouverture du marché des joueurs autonomes.
Oui, ça commence tout juste, puis des gros noms.
Enlevez chapeaux et casquettes et faites vos bagages. Voilà.
Ciao bye à des destinations.
Ciao bye.
Intéressant tout de même, mais comme on va parler d'Eduardo Rodriguez, donc le lanceur des Red Sox de Boston.
Anciennement des Red Sox, maintenant.
Anciennement, qui prend la direction de Détroit. Donc, une équipe quand même qui a su se relever un peu l'an dernier après une autre saison
difficile.
Très difficile.
Si on parlait de reconstruction tout à l'heure au hockey, les Tigers, eux, ils ne l'ont pas fait à moitié.
Non.
Cette reconstruction-là.
C'est le cas de dire.
Et là, on voit que on récolte tranquillement les fruits de notre, refondation. Parce que là, y a plusieurs jeunes qui arrivent dans les ligues majeures avec un bagage puis une espèce de hargne. Et ben on signe aussi des joueurs autonomes comme Eduardo Rodriguez qui a connu une saison époustouflante avec les Red Sox, qui est d'ailleurs, tu sais, on s'entend, une des pierres angulaires du parcours en série des Red Sox, du moins de leur présence en série. Eduardo Rodriguez, grand lanceur gaucher qui a accepté les modalités d'un contrat de 5 ans et 77 millions de bidoux. Non, c'est du gros cash.
C'est ça, c'est pas rien.
Ouais.
On voit que les Tigers de Détroit sont prêts à investir dans des joueurs pour leur avenir très proche, je crois.
Surtout, leur rotation de lanceurs est excellente. Là. Casey Mize, qui va être éventuellement un as, là, qui a vraiment très bien fait l'an passé. Je serais curieux de regarder le Casey Mize, qui est un ancien choix numéro 1 au total de mémoire.
Rodriguez aussi, qui est quand même jeune, 28 ans.
C'est ça, en plus, c'est pas un vieux crouton. Là.
Non, c'est ça, il lance pratiquement sa balle aussi jusqu'à 100 000 à l'heure. Donc
pour un gaucher, c'est très rare en plus.
C'est un bon joueur, c'est vraiment une belle acquisition du côté des Tigers de Détroit. Je la voyais pas venir, mais quand on y repense, quand on analyse bien la transaction, je crois que c'est logique, c'est un bon...
Ça fait un bon duo avec Mize, justement, peut-être lanceur 1 et 2, peut-être qu'ils vont s'alterner, je sais pas. Peut-être qu'Eduardo Rodriguez sera l'as de la rotation. Il y a aussi, on s'entend, Matthew Boyd, qui est une énigme, ce gars-là. Matthew Boyd, qui est un ancien aussi, je pense, choix numéro 1 au total, ou presque, là, un wonder kid, comme on dit.
Il y a eu une saison de feu aussi, il y a quelques années.
Ben, c'est ça, c'est une saison de feu, puis une saison désastreuse. On sait jamais à quoi s'attendre de Matthew Boyd. Qui sait, peut-être que l'an prochain, ce sera la bonne. Spencer Turnbull aussi, qui est un gars assez fiable là, sur qui les Tigers ont su s'établir l'an passé alors qu'on l'avait acquis des Angels de Los Angeles. Spencer Turnbull aussi et Tarik Skubal qui est bien aussi jeune lanceur droitier. Puis en relève on a Gregory Soto qui a, je pense, sauvé 25 matchs. En tout cas, presque 25 sauvegardes.
C'est pas des noms qui nous viendraient directement en tête, mais c'est des noms qui commencent à faire leur marque.
Hey, Gregory Soto, première présence au match des Étoiles l'an passé. Donc, hey, why not? Ce club-là est pas si pire.
Un bel avenir.
Reste à trouver quelques frappeurs de qualité. Parce qu'on s'entend, là, c'est quoi son nom? Jonathan Schoop est un peu seul au monde là, dans l'alignement. Reste à voir ce club-là en plus.
Il y avait quelques recrues là, qui avaient bien... mais c'est vrai que j'ajouterais quelques gros bras du côté pour aider l'offensive puis aider justement ces lanceurs-là.
C'est ça. Je parlais de Jonathan Schoop qui avait été acquis des Twins. Non, des Twins du Minnesota. Avant.
Et précédemment.
Oui, anciennement des Orioles, c'est vrai, avant les Twins. Sinon, il y avait Akil Badu qui avait bien fait en début
Badu.
De saison.
Akil Badu, c'est ça, je le savais qu'il y avait un joueur qui avait marqué.
Voltigeur de gauche.
Plusieurs grands chelems, je crois que c'est là-dessus qu'il s'est démarqué beaucoup. Là, beaucoup, une grosse production de points.
Surtout en début de saison, on avait manqué un peu de constance dans le ventre mou de la campagne, sauf que il a aussi volé 15 ou 20 buts, donc c'est un gars très rapide. Pareil pour Robbie Grossman, qui avait joué pour les A's avant. C'est une des sensations révélations chez les Tigers l'an passé, Robbie Grossman. Christy, de belle saison. Je l'ai eu dans mon fantasy un petit bout de temps. Là. En plus, c'est un gars comme un peu à la croisée des chemins à 32 ans. Il y a comme une certaine carrière derrière lui. L'an passé, il a frappé pour 239. C'est pas la meilleure moyenne au monde. Par contre, il a volé 20 buts, 23 circuits, 67 points produits. Donc, très bonne saison pour Robbie Grossman. Moi, je le suis avec attention. Peut-être même que je vais le repêcher au printemps prochain.
Ooh.
Yes, sir. Bref, les Tigers, grosse signature. Sinon, Joe, il y avait aussi une surprise. On pensait que Thor, son surnom, Thor,
oui.
Noah Syndergaard, allait accrocher son gant. Moi, je pensais qu'il allait prendre sa retraite. Ça fait deux saisons complètes qu'il ne joue pas, même peut-être quasiment en trois. Là. Tu me corrigeras si je me trompe, mais il est blessé plus souvent qu'autrement, Noah Syndergaard. Là, il vient de signer un contrat d'un an avec les Angels. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui se passe?
Moi, je suis très ravi qu'il n'ait pas accroché ses gants, comme tu dis.
Ouais.
C'est sûr qu'il est ravagé par les blessures depuis 2, 3, 4 saisons.
Ouais.
Depuis 2017, en fait.
Mm-hmm.
Mais quand on le voit sur le terrain, on voit le potentiel qu'il peut atteindre. Et en plus, c'est excitant d'avoir vu avec une rotation aussi excellente que celle des Mets de New York.
Et une si belle chevelure.
Oui, aussi. Il a passé quand même ses sept premières saisons. Ouais, sept premières saisons donc avec les Mets de New York. C'est pas rien. L'envoyer avec les Angels, donc avec Shohei Ohtani aussi.
Ouais.
Ça va être intéressant.
Et s'il peut rester en santé, on en parlait un peu avant l'émission. Écoute, c'est un pari, somme toute, très peu risqué pour les Angels parce qu'on lui donne un contrat d'un an seulement. 18 millions, certes, c'est beaucoup de bidou, sauf que c'est une offre qualificative. C'est ce que les Mets allaient lui donner de toute façon. Donc, on n'a pas déboursé, on n'a pas sorti la grosse cagnotte pour acquérir Noah Syndergaard. Puis justement, tu parlais de Ohtani. Ça lui fait une certaine police d'assurance là, lorsque Ohtani a une moins bonne semaine puis qu'on veut gagner une série de 3-4 matchs. Là.
Ah, puis d'après moi, c'est pas terminé du côté des Angels pour...
Ah, c'est clair.
Pour raffiner un peu leur alignement ou leur rotation dans ce cas-ci.
Mm-hmm.
C'est un très bon premier move avec Noah Syndergaard qui est flamboyant à voir sur le monticule. Avec une équipe aussi justement flamboyante que les Angels, ça pourrait être un bon match. Mais c'est sûr que là, Syndergaard va falloir faire attention. Parce que encore là, en 2021, je crois que il a seulement joué quelques manches.
À peine. Il a joué en relève en fin de saison. Je pense qu'il a lancé
deux manches
en relève. Il a un bras en porcelaine dorénavant. Donc, faites-lui attention, les Angels.
Non, mais c'est récurrent là, dans le monde du baseball. Quand tu as une blessure au bras, c'est très dur de s'en rétablir complètement. Mais avec un potentiel comme ça, je suis content de le voir encore... encore du moins une année de plus pour 21 millions du côté des Angels de Los Angeles.
Yes. Suivons ça avec détail. Avec attention aussi, il a juste 29 ans en plus.
Non,
Noah Syndergaard, il n'est pas vieux. Là.
Très jeune.
Il est juste fragile. Sinon, autre signature, on avait quoi là? Jose Berlioz des Blue Jays.
C'est pas mal le tout.
Qui avait été acquis à la date limite des transactions. Là, on vient de le re-signer, en fait, sur un contrat de 7 ans.
On a été satisfait de Berrios.
De son rendement, oui.
Ouais, lors de la dernière saison.
Du peu qu'on a vu de lui. Rappelons qu'il était avec les Twins du Minnesota avant. On parle d'une entente de 131 millions.
Étendu sur 7 ans.
Berrios qui, on dirait... Je le trouve un peu énigmatique parce que... Énigmatique, dis-je bien. J'ai l'impression de pas comprendre pourquoi ce gars-là a un certain talent puis pourquoi il a un si bon rendement aussi. C'est vraiment pas un gars impressionnant. Je trouve que, tu sais, oui, il y a une certaine vélocité dans son bras, mais je le trouve beige un peu. Beige-brun. Je comprends pas vraiment non plus l'engouement qu'on a autour de lui. Tu sais, certes, il...
Moi, je trouve qu'il est loin d'être une nuisance dans une rotation.
Non.
C'est sûr que c'est pas un premier, deuxième...
Non, non plus. Non, c'est vrai.
Deuxième lanceur, mais il peut pas nuire non plus à une rotation de profondeur.
C'est clair. Moi, je me questionne surtout sur le rendement de Hyunjin Ryu, qu'on a clairement établi comme notre as de la rotation. Je trouve pas que c'est un lanceur numéro un. Il nous l'a pas prouvé, en tout cas, cette saison-là. Oui, tu sais, il y a des bonnes statistiques et tout ça, mais tu sais... une moyenne de points mérités de 3. Il y a plusieurs lanceurs dans la ligue qui vont la faire. Là. C'est pas un joueur exceptionnel, Hyun-Jin Ryu, puis c'est pas un athlète de haut niveau non plus. Là.
On s'attend à des meilleurs.
Défensivement, quand il y a une balle frappée en flèche vers lui, ça se peut bien qu'il se tasse. Puis que... C'est pas c'est pas un homme de fer.
Non, on s'attend à un meilleur rendement de sa part. Ouais. Avec, ça peut pas faire de mal, c'est une signature quand même.
Oui, Berrios, ben là,
à long terme, du moins. Ouais. Donc, d'après moi, on a beaucoup d'espoir en Josh Berrios.
Surtout qu'on va perdre Robbie Ray.
Oui, très probablement.
En tout cas, à moins qu'il re-signe là, maintenant, mais c'est ça. Donc, je pense que cette signature-là signifie le départ officiel de Robbie Ray. Donc là, on se retrouve avec deux lanceurs droitiers de haut calibre, disons ça, entre guillemets. Donc ça va prendre un gaucher dans cette rotation-là.
Clairement.
Yeah. Yeah. Hey, je pense que Joe, on a pas mal fait le tour. Il y avait quoi d'autre? Du baseball, une coupe d'affaires.
Les recrues de l'année.
C'est vrai. On a parlé de ça tantôt. J'étais bien content, justement. Je vais parler de celle dans la nationale, puis tu parleras de celle dans l'américaine. J'ai développé une adoration légère, somme toute, pour... C'est quand même contradictoire de dire une adoration légère. Mais bon...
Un début d'admiration.
Ouais, une idylle.
Ah, ouais. Parce qu'on n'a pas vu la fin de lui.
Non, c'est ça. On l'a pas vu en série non plus.
Ce n'est que le début.
C'est ça, ce n'est qu'un début. Le beau soleil de Jonathan India, on l'a pas encore vu. Mais oui, Jonathan India, c'est le joueur dont lequel je voulais parler. Star Academy, Jonathan India, les Reds de Cincinnati, je m'égare. Jonathan India, joueur de deuxième but, troisième but, il peut jouer à la récour aussi, très polyvalent. Une autre belle chevelure, brune celle-ci. Jonathan India, qui avait connu un début de saison époustouflant avec les Reds de Cincinnati. Maintenant, il y a eu une immense léthargie. Ben pas une immense léthargie, mais un bon mois d'inactivité puis de rendement médiocre. Sauf qu'il a très bien fini l'année à un point où les Reds étaient dans la course, même pour le meilleur deuxième dans la nationale. Puis Jonathan India était définitivement un des éléments marquants dans cette course à la série mondiale. Jonathan India peut tout faire sur un terrain. C'est un joueur très complet, vol des buts. Très bonne moyenne au bâton, frappe à l'envers dans son champ. Il y a un bras canon aussi dans le diamond, à l'avant-champ. Quoi? C'est un joueur complet, moi je l'aime beaucoup. Je peux vous dire même si...
Ah, puis il est tout frais, tout chaud, sorti du four. Là, je veux dire, c'était vraiment pas... c'est pas un joueur établi. Ils viennent tout juste de décrocher un peu son rôle de joueur au deuxième but avec les Reds. Mm-hmm. Et il a su complètement faire sa marque. C'est le premier joueur qui gagne la recrue de l'année depuis 99. Donc, il était temps qu'on aille un bon joueur dans le monticule, dans le diamant.
Frappe pour 270, 12 buts volés, 69 points produits, 21 circuits. Et là-dessus, il y a 98 points comptés. Donc, il a croisé le marbre à 98 reprises.
Ah, c'est pas rien.
En 150 games, là, vraiment excellent.
Je me souviens d'en avoir quand même soulevé son nom quelques fois lors des émissions durant la saison régulière. Mm-hmm. Je croyais pas que ça allait donner un résultat d'une recrue de l'année dans la Ligue nationale, mais c'est très bon pour lui.
Vraiment.
Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire dans le futur.
Yes, rappelons qu'il avait été repêché par les Reds en première ronde de l'encan amateur de 2018, cinquième au total. Donc, c'est pas un deux de pick, Jonathan India, puis vous avez certainement pas fini d'entendre son nom.
Non, vraiment pas.
Dans l'américaine, sinon, Joe, qui a remporté? Un de tes favoris.
Oui. Ça m'a pris du temps, par exemple, à être capable de dire son nom comme il faut, mais Randy Arozarena, le joueur foudroyant des Rays de Tampa Bay, qui n'a pas pu décrocher le titre l'année passée à cause d'une saison écourtée, dans son cas. Et là, cette année, il s'est repris et a gagné le titre de recrue de l'année dans la Ligue américaine. Mm-hmm. Avec une saison très bonne, 274 de moyenne au bâton, 32 doubles, 20 longues balles, donc des coups de circuit, et 69 points produits. Mm. Donc aussi, on le sait, sur le terrain, il est foudroyant, il a une bonne rapidité, il fait pratiquement pas d'erreurs sur le terrain non plus.
En plus, non, c'est ça.
Donc il y a beaucoup d'aspects de son jeu qui est au sommet en ce moment.
C'est un excellent voltigeur.
Avec Wanda Franco aussi, qui est entré dans... Je crois qu'il était pas loin non plus dans les...
Dans le scrutin.
Dans le scrutin, oui. Parce qu'on sait que c'est un vote. Dans le cas de Randy, 22 des 30 votes. Donc, il a battu justement Franco et Luis Garcia des Astros.
Ouais, très bon lanceur. On l'a vu en série mondiale. Par contre, il a un peu croulé sous la pression, Luis Garcia, contre
ouais,
les
c'est
Braves.
Dommage. Mais ouais. Pour les Rays, c'est le premier depuis donc 2013, depuis un joueur que...
2013, est-ce que je peux essayer de deviner?
Que tu aimes bien chausser, oui.
Que j'aime bien chausser. Je le chausse. Je le porte dans mes souliers. 2013, Evan Longoria. Non, c'était Longoria est plus vieux que ça. C'est difficile, là. 2013, les Rays.
C'est quand même dans ces eaux-là. C'est avec un de ses coéquipiers quand même marquant.
2013, les Rays. Longoria. Colin, pas Ben Zobrist.
Non. Lui.
OK, attends. Hey, 2013, les Rays, recrue de l'année.
Il est désormais sur la côte ouest.
OK, est-ce que c'est un lanceur ou un frappeur?
Un frappeur. Un voltigeur.
Sur la côte ouest. Un voltigeur pour les Rays. C'est pas Longoria. Colin.
Quand j'ai dit tu le chausses, c'est littéralement là.
C'est Will Myers. C'est Will Myers, mon t'as dit. Ouais, qui joue pour les Padres maintenant.
Yes, en plein ça. Moi, quand je pense à Evan Longoria, le deuxième qui me vient en tête, c'est Will Myers. Après, t'as Jennings, t'as Ben Zobrist.
J'en ai nommé quelques-uns.
Les belles années, oui.
Ouais.
Mais t'as été un peu trop loin.
Ah, définitivement.
Donc, ça faisait du moins longtemps que les Reds, mais Arizona qui a réussi à décrocher ce beau titre.
Hey, pour c'est drôle parce que India et Arizona se ressemblent quand même dans leur style de jeu. Oui, India joue dans l'avant-champ alors que Arizona est un voltigeur, mais dans ce qu'il apporte dans un match, là, les deux se ressemblent. Leur rapport est similaire, je trouve.
Non, c'est vrai.
Dans leur stats aussi, tu sais, même nombre de circuits, à peu près même genre de puissance. Les points produits aussi, ça se ressemble. Les deux, peut-être que Arizona en a un peu plus. Les buts volés, ça se ressemble aussi. Arizona en a volé peut-être un peu plus. La moyenne aussi, semblable. En tout cas.
Hein? Très d'accord.
Yes.
Sinon, parlant de prix, est-ce que tu serais capable de deviner le moment légendaire de la saison 2021 qui est arrivé en fait très tard dans les séries mondiales?
Le moment légendaire.
Ouais.
Je sais pas, Freddie Freeman qui soulève le trophée, non? C'est pas ça.
Un peu avant ça.
Hey, le moment... tu m'en colles une bonne, le crime. Hey, le moment légendaire.
Je vais...
Quel moment légendaire?
Avec Jorge Soler. Donc,
oui,
c'est le
grand chelem.
Ouais, en plein ça. Mais non, c'est un 3 points.
C'est que 3 points,
ouais. En plein ça. Donc, c'est pas mal ce qui a marqué la série mondiale, ce qui a fait pencher la balance du côté des Braves d'Atlanta.
Ben
qui,
oui.
Qu'il faut toujours, je me le rappelle encore chaque jour, que c'est eux qui ont gagné la coupe.
Ouais.
Ben pas la coupe, mais la série mondiale.
Ouais.
On les voyait vraiment pas venir. 88 victoires pour commencer.
Ben oui.
Pour conclure la saison. Donc,
non, très bien. Quand même. Et c'est un bel exemple d'acharnement. Parce que c'est un club qui avait été décimé par les blessures, rappelons-le. On le dit à chaque semaine, depuis 2-3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, 10 semaines. Mais oui, bravo aux Braves, on le rappelle. Puis écoute, ils n'ont pas une grosse entre-saison non plus. Il y a quelques joueurs qui vont quitter, peut-être bien...
un gros point d'interrogation sur Freddie Freeman aussi.
Freddie Freeman, ouais. C'est le seul gros dossier du côté des Braves. D'ailleurs, je voyais que Freddie recherche un contrat de 6 ans, alors que les Braves seraient plutôt enclins à lui donner une entente de 5 ans. Petite divergence de ce côté-là. J'ai aussi vu que, évidemment, avec à chaque fois qu'il y a un joueur vedette de disponible dans la ligue, j'ai l'impression que les Yankees sont dans le dossier, ils suivent ça assidûment. Surtout que les Yankees, je ne sais pas s'ils vont re-signer Anthony Rizzo. Donc, point d'interrogation là-dessus. Ce serait plate de voir Freeman avec les Yankees, même si je trouve que le gars fit un peu là, avec les Yankees. Mais c'est difficile de détester Freddie Freeman, puis c'est peut-être le seul point qu'on pourrait l'haïr.
Non, puis du côté des Yankees,
l'uniforme des Yankees.
On a beaucoup de vedettes à gros bras, tu sais, je veux dire, à m'emmener, comme on peut voir du côté de San Diego avec les Padres,
ouais.
Des fois trop de gros joueurs, ça fait pas nécessairement toujours la dynamique espérée. T'sais, des fois c'est bon avoir un certain leadership puis quelques joueurs qui sont capables de gérer bien l'équipe. Mais du moins, les Braves ont quand même fait une signature avec le receveur Manny Pina des Brewers d'Atlanta, de Milwaukee. Et donc, c'est pas rien, 2 ans, 8 millions. Je crois pas que ça va nécessairement élever l'équipe, mais ils ont réussi à faire beaucoup avec beaucoup de joueurs de profondeur, des joueurs qu'on n'aurait pas mis au premier plan dans une série mondiale. Donc Manny Pignoc va peut-être pouvoir aider.
Peut-être qu'il va être le deuxième receveur derrière Travis d'Arnaud. Je sais pas si Travis d'Arnaud va revenir, en fait. J'ai l'impression qu'il fait ses valises souvent, Travis d'Arnaud. On dirait que ce gars-là est jamais capable de s'installer dans un environnement de baseball. Il a passé un petit moment avec les Rays, ton club de cœur, mais à part ça, je sais pas.
Ah, puis il avait bien fait aussi, ouais. Il avait fait une bonne marque, mais...
Il y a une grosse blessure l'an passé aussi qui a manqué presque la saison.
À la main, oui, au pouce, je crois. Ouais. C'est sûr que ça l'aide pas. C'est encore une blessure aussi qui revient te hanter.
Oui, c'est ça. Il y a aussi un jeune receveur, le frère de Wilson Contreras. William Contreras, c'est ça? Wilson Contreras.
Et Wilson, ouais.
C'est quoi, William. William et Wilson, je pense. Ouais, c'est ça. Le plus jeune des deux frères joue avec les Braves. Donc là, on a comme une course à trois receveurs avec la signature de Manny Pina. Hey!
C'est peut-être... ça sent peut-être un prochain...
La compétition à l'interne.
Non, c'est ça, une petite compétition ou une future transaction pour les Braves d'Atlanta prochainement.
Yep! Hey, je pense que it's a wrap pour le baseball. On a fait le tour. Colin Bean.
Pour une saison morte.
Ouais, on passe beaucoup trop de temps à parler de baseball. Mais bon, hey, gars, c'est notre habitude. Bloc publicitaire, Joe. Après ça, on s'en va écouter. La main de Dieu, référence obscure. Là, les fans de foot vont voir l'allusion à ce fameux but de Diego Maradona. En Coupe du Monde, je pense que c'est dans les années 70, mais là, l'année m'échappe, qui avait marqué un but avec sa main qui n'avait pas été repris. Donc, Manny Pina dans la tête, mais c'est Diego Maradona qui avait marqué ce fameux but, un classique du football d'Amérique latine. Donc voilà, la main de Dieu du groupe québécois We Are Wolves sur les ondes de 694, mais avant ça, petit bloc publicitaire. Vous écoutez Conduite sportive, spécialement pour ce mardi 16 novembre.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
La fin de semaine arrive et vous avez besoin de suggestions pour accompagner votre souper du samedi? L'Espace JC est là pour vous donner des conseils et vous en apprendre plus sur les vins, bières et spiritueux. En compagnie d'experts, nous vous divertirons tout en humour et sans prétention pour votre plus grand bonheur. L'Espace JC, c'est tous les vendredis dès 22h, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz 94.3 ou au www.chiz.ca. À bientôt!
C'était la main de Dieu du band We Are Wolves sur les ondes de Schiste 94.3. Main de Dieu qui est ma référence aujourd'hui. Écoute, Jonathan, je commence à manquer d'inspiration pour des pièces en lien avec le sport. Donc, la main de Dieu, référence à ce fameux but de Diego Maradona. J'ai eu l'info un peu plus tôt lors de la Coupe du Monde de 86.
La référence est loin.
Contre l'Angleterre.
Très, très loin.
Oui, ce fameux match-là. Mais on ne parlera pas de la Fédération de soccer argentine, mais bien de celle canadienne.
Okay,
yes, si. Parce que là, ça se passe, ça brasse. Puis, force est d'admettre que le soccer canadien n'a jamais été aussi en forme et en santé. C'est cool, c'est vraiment beau à voir. Donc, ce soir, Jonathan, le Canada affronte le Mexique. On en a parlé un petit peu en introduction. Le Canada affronte le Mexique à Edmonton, dans le froid, la neige et les conditions merdiques qui nous caractérisent.
Ok, si. Et on espère que ça va être à l'avantage des Canadiens, justement.
Oui.
Nous, qui est un peu plus propice à jouer dans des conditions comme ça.
Écoute, c'est pas le stade Azteca de Mexico, non, avec 100 000 personnes et un smog intense.
Mexique,
c'est l'antipode de ça.
L'équipe du Mexique est arrivée très tard aussi, vraiment pour pratiquer jusqu'à la dernière seconde, mm-hmm, dans des conditions un peu plus chaudes.
Ouais.
Soit à leur dernière location, je crois que c'est à Cincinnati. Donc, c'est déjà vraiment, vraiment plus chaud comme emplacement.
Par contre, ils l'ont déjà vécu, là, ces conditions-là. Même dans justement la Ligue des champions de la CONCACAF, la compétition entre clubs et non entre nations. Le Club América, par exemple, qui est à Mexico, a déjà joué des matchs là, contre l'Impact, entre autres, même à Toronto. Donc, tu sais, c'est pour certains joueurs, du moins, de la Fédération mexicaine, c'est un terrain connu, c'est un lieu commun. Reste à voir si, effectivement, l'ensemble de l'effectif va pouvoir s'ajuster, parce que, c'est difficile de jouer à l'étranger, peu importe la destination. Sauf que là, on est à Edmonton. Je sais pas combien...
Il annonce qu'à moins 20.
Moins 20, hein? Le mercure va...
Mais moi, je crois que l'équipe du Mexique est pas prête. On a joué dernièrement à Cincinnati, ou Indianapolis.
Ouais.
Et la température était montée jusqu'à 5, je crois. Et on trouvait déjà ce froid, mm-hmm, de leur côté. Donc, ça sera vraiment pas facile. Je crois vraiment que ça va être quelque chose qui va être mis de l'avant.
Ouais.
Comme j'avais dit en début d'émission, ce serait une tactique donc, du côté de l'équipe canadienne. Donc, pour pouvoir jouer un peu en défaveur de ce côté-là. Mais tout va pas jouer au niveau de la température quand même. Le Canada, écoute, qui est toujours invaincu à ce jour. 3 victoires, 4 défaites dans cette partie. C'est très bien.
Rappelons que tous les clubs de la CONCACAF, cette division pour les qualifications de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, tous les clubs ont joué 7 matchs. D'ailleurs, le Canada est le seul club invaincu, comme tu le dis, Jonathan. Donc, 3 victoires, 4 défaites. Sont 3e au classement présentement derrière le Mexique, justement, et les États-Unis qui trônent à cause de leur ratio de buts pour. Entre autres, ils ont marqué 11 buts contre 4. Donc, même ratio que le Canada, par contre, ils ont une victoire de plus au compteur, alors que le Canada avait affiché un nul cette fois-ci. Je pense que c'était contre le Panama. Donc, cette qualification-là de la Coupe du monde du Qatar, elle commence, en fait, au début de l'année 21. Donc, on a commencé ça en mars 21, alors que, justement, la pandémie commençait. Elle a commencé le 24 mars 21 et elle se termine le 30 mars 2022. Donc, cette qualification-là. Rappelons que pour l'Hexagone, donc la partie CONCACAF, donc notre bloc géographique, c'est les 3 premiers clubs qui font la coupure vers la Coupe du Monde au Qatar. C'est l'été prochain. Donc, effectivement, le Canada est en bonne posture, comme on le comprend, parce qu'ils sont 3e au classement. Hein? Ça prend pas un bac en mathématiques ni en sciences pour le comprendre. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Joe?
Non, vraiment pas. Mais
voilà,
ça demande quand même un peu de recherche.
Ouais.
Pour ce qui est du processus du tournoi, c'est ça, on commence quand même avec 210 équipes pour terminer avec très peu d'équipes.
Il y a plusieurs zones géographiques aussi, là.
Donc, des équipes.
De l'Océanie jusqu'ici.
Je crois que si on compare à la dernière Coupe du Monde, l'Algérie vient de passer aujourd'hui. C'est quelle équipe qui n'a pas passé? Je l'ai noté quelque part, ça va m'en revenir.
L'Algérie, eux qui.
Non, pas la France. La France
sont là, c'est certain. L'Allemagne aussi. Par contre, peut-être la Turquie, ni les Pays-Bas. En tout cas, je sais pas, les Pays-Bas, ça allait pas super bien aux dernières nouvelles. Reste à voir. Je sais que là, tu as parlé de l'Algérie brièvement, puis ça m'amène à la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est la... Comment dire, nous, on a la Gold Cup ici entre nos clubs d'Amérique du Nord et des Caraïbes, qui est la CONCACAF, finalement. Eux, de leur côté, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Puis tous les pays d'Afrique peuvent s'inscrire justement à cette compétition-là parce qu'il y a effectivement des zones entre l'Afrique. Mais l'Algérie, je pense qu'il avait eu un bon parcours à celle-ci, la CAF, comme on dit, hein, dans le jargon footballistique.
Oui, ils ont été qualifiés, en fait, aujourd'hui. Ça s'est produit tout récemment, en fait. Il y a plusieurs confédérations. Ouais, on peut parler de celle de l'Asie aussi. Mm. Tu as le CONMEBOL.
Le CONMEBOL, oui.
CONMEBOL, ouais, qui est l'Amérique
ouais.
du Sud.
Ouais, exact.
L'Océanie aussi, qui a pratiquement aucune équipe, je crois, de qualifier.
Non, mais il y a toujours...
L'Australie.
C'est toujours l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Tu as deux choix, vraiment, là, entre dans les clubs. Parce que sinon, c'est des îles. Souvent, les îles Fidji n'ont pas une grosse sélection. Pareil pour... c'est quoi l'autre?
Saint-Marin.
Samoa aussi. Tu sais, il y a comme. Non, c'est ça, c'est dans les Caraïbes. Mais oui, c'est vraiment pas une grosse zone géographique de foot. Même, tu sais, ils jouent plus au rugby puis au football australien. Mmh.
La plus grosse qui est la UEFR, l'Union européenne, en fait.
Oui, tout à fait. C'est. En fait, tu peux même presque piger au sort des fois entre les pays d'Europe de l'Est, là, entre autres la Slovaquie, la République tchèque, la Tchéquie maintenant, Slovaquie, République tchèque, Croatie, Serbie, Monténégro. Il y a tellement de pays dans cette concentration-là. Ils sont tous talentueux en plus au foot, donc c'est fascinant quand même. Ouais. Le résultat de la Coupe du Monde, là, c'est des années de travail pour une compétition qui va durer 3 semaines, 1 mois. Tu sais.
Ouais, ça a des répercussions aussi un peu négatives. Je veux toucher deux controverses qui touchent la Coupe du Monde. D'abord, on sait que la construction du chantier date depuis 2010, hein, en fait, quasiment. Donc là, on serait rendu à 6750 personnes décédées sur le chantier dû à des mauvaises conditions de travail, dû à plein de questions éthiques. Et donc, c'est très problématique dans ce cas-là. Il y a des conditions, soit les salaires, les horaires aussi, ils n'ont pas de logement là-bas. Donc, la chaleur extrême aussi qui fait en sorte
C'est clair.
Donc ça, c'est un sujet qui m'a quand même frappé un peu là, quand on repense à... simplement monter un événement sportif, mais il y a tellement de choses impliquées.
Fascinant et décourageant. Pareil pour la
Russie. Fascinant et décourageant, c'est parfait. C'est une très belle expression.
Ouais.
Puis on parle aussi de corruption au niveau du système de désignation des pays hôtes.
C'est l'enfer, ça, à chaque année.
Le choix du Qatar a été beaucoup critiqué, entre autres par Barack Obama et plein d'autres personnes très importantes. Là-bas aussi, il paraît que les femmes vont falloir ils ont été dissuadés, en fait, de saluer le prince quand il arrive là-bas. Fait que là, on revoit un peu le côté d'égalité là-dedans.
Ouais.
Les joueurs homosexuels aussi sont toujours criminalisés là-bas. Là, il y en a un, entre autres, Josh Cavallo, donc du soccer australien, qui hésite à y aller vu les répercussions. Ouais. Donc, c'est vraiment pas le premier choix qui me serait venu en tête, surtout qu'il est en compétition contre la Corée du Sud, l'Australie, les États-Unis et donc des grosses puissances mondiales comme ça.
Yes.
Donc, il y aurait peut-être eu des achats de vote malheureusement faits lors d'une réunion antécédente, en fait,
Très louche.
Choix. Ouais,
très
cas,
louche, tout ça.
Ça remet en question.
Parlant d'histoire louche, je finis là-dessus, Joe. Joueuse de tennis chinoise Peng Shuai, qui avait été portée disparue la semaine dernière, dis-je bien, alors qu'elle avait accusé un des hommes les plus importants au pays de l'avoir violée il y a quelques années. Elle a fait un post sur Twitter et depuis, elle était portée disparue. C'est complètement... improbable, cette histoire-là. Ça m'a subjugué. J'étais à terre complètement en fin de semaine quand j'ai vu ça. Là, par contre, il y a du développement dans cette histoire-là. L'ATP et la WTA viennent de recevoir, de ce qu'on comprend, des